Il est midi et demi en temps universel, 14h30 à Paris, et c'est l'heure d'Afrique Midi sur RFI. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, la justice transmet une demande formelle au Sénat pour lever l'immunité de Joseph Kabila. Le ministre de la Justice accuse l'ancien président d'être cofondateur de l'AFC M23 et évoque sa responsabilité dans les crimes commis dans l'est du pays. Au Mali, un projet de loi adopté hier en Conseil des ministres pour abroger la charte des partis politiques ainsi que la loi sur le statut de l'opposition. Un texte adopté au lendemain des consultations des forces vives orchestrées par les autorités. Consultations qui ont notamment recommandé la dissolution des partis politiques et le maintien à la présidence du général Assimi Goïta pour au moins 5 ans. Et puis, en ce 1er mai, fête du travail et des travailleurs, Anselme Kohovi-Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin et secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale internationale Région Afrique, est notre invité. En République démocratique du Congo, la justice a donc transmis une demande formelle au Sénat pour lever l'immunité de Joseph Kabila. Le ministre de la Justice accuse l'ancien président d'être l'un des cofondateurs du mouvement armé AFC M23. Il évoque aussi sa responsabilité dans les crimes graves commis dans l'est du pays. Les accusations sont très lourdes, Patient Ligaudy.
Oui, Nicolas, trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi crimes de guerre et crimes contre l'humanité liés à des massacres des civils dans l'est du pays. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, affirme que la justice a rassemblé, je cite, des preuves tangibles et irréfutables impliquant directement Joseph Kabila. Il ajoute que tous ses biens immobiliers ont été recensés en RDC comme à l'étranger en vue de potentielles saisies. L'ancien président n'est pas poursuivi pour des faits liés à son mandat, mais en tant que sénateur à vie, ajoute le ministre de la Justice. Du côté de ses proches, la réaction n'a pas tardé. Joint par RFI, Kikayabine Karoubi, fidèle conseiller en exil, parle d'agitation passagère et d'une aventure inutile. Il mise, je cite, sur la maturité du Parlement pour, dit-il, ne pas céder à des injonctions puériles. Fin de citation. Le bureau du Sénat n'a pas encore réagi officiellement, mais de son côté, donc l'Union européenne, par la voix de son ambassadeur en RDC, dit rester attentive au respect de l'état des droits, de l'espace démocratique et à la nécessité de favoriser un dialogue interne.
Et justement, Patient Ligaudy, dans ce contexte tendu, Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Déli Sessanga et Moïse Katumbi ont signé un communiqué commun.
Oui, ces quatre figures de l'opposition autrefois divisées appellent aujourd'hui à une solution durable pour sortir de la crise. Ils saluent les efforts engagés à Washington, mais estiment que ces discussions restent incomplètes. Ils réaffirment la nécessité d'un dialogue national pour identifier les causes profondes de la crise. Et à ces titres, ils disent soutenir pleinement l'initiative conjointe des églises catholiques et protestantes, la CENCO et les CC, qu'ils jugent plus inclusive et portée par des Congolais eux-mêmes. Ils demandent aussi aux autres acteurs, notamment l'Union africaine, Doha et Washington, de soutenir cette dynamique locale et de coordonner leurs efforts dans un esprit de concertation.
Cette déclaration survient alors que le Rwanda et la RDC doivent déposer d'ici demain à Washington un avant-projet d'accord de paix. C'est ce que prévoit une déclaration d'intention signée vendredi dernier par les ministres des Affaires étrangères des deux pays en présence du secrétaire d'État américain Mario Rubio. Les États-Unis qui soignent leurs relations avec le Rwanda. Fin février, on s'en souvient, ils avaient imposé des sanctions contre James Kabarebe, le ministre rwandais de l'Intérieur régionale, pour son rôle présumé dans l'offensive du M23. Mais depuis, l'administration Trump multiplie les gestes de rapprochement avec Kigali. Ainsi, Florence Maurice, en début de semaine, les deux pays ont lancé leur premier dialogue bilatéral stratégique.
La signature a lieu en présence côté rwandais d'Olivier Ndungiréhe, le ministre des Affaires étrangères. Washington et Kigali s'engagent donc à entretenir un dialogue régulier et privilégié sur quatre questions prioritaires, a expliqué le ministre à la sortie. La politique, l'économie, la santé et la sécurité. priorité, avec une volonté promouvoir leurs intérêts communs. Depuis un mois, les États-Unis multiplient les initiatives diplomatiques susceptibles de favoriser leur accès aux minerais stratégiques présents dans les sous-sols de la région des Grands Lacs. La déclaration de principe signée entre le Rwanda et la RDC à Washington vendredi dernier en est un exemple. Ce texte, présenté comme une étape vers un accord de paix, contient une particularité. Il aborde la question du commerce régional dans le secteur minier en indiquant que Kinshasa et Kigali pourraient s'entendre pour encadrer l'exploitation de ces ressources afin d'attirer les investisseurs. Une coopération qui faciliterait l'implantation des sociétés américaines. D'autant que parallèlement, Washington mène des discussions séparées avec le Rwanda et la RDC pour signer avec chacun de ces deux pays des accords prévoyant un accès à des ressources minières en échange de garanties de sécurité.
Au Mali, un projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres pour abroger la charte des partis politiques et la loi sur le statut de l'opposition. Ce projet est adopté au lendemain de la fin des consultations des forces vives orchestrées par les autorités. Consultation qui a notamment recommandé la dissolution des partis politiques et le maintien à la présidence du général Assimi Goïta pour au moins 5 ans. Ces recommandations doivent officiellement être validées par le chef de l'État et mises en œuvre. David Bachet, c'est ce processus qui vient donc de commencer.
Oui, avant même que le général Assimi Goïta ne se prononce publiquement sur ces recommandations, le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, est passé à l'action. L'abrogation de la charte des partis politiques est une première étape vers la dissolution des partis, le durcissement des conditions de création des nouvelles formations ou encore la suppression de tout financement public. L'abrogation de la loi sur l'opposition politique a pour objectif de supprimer le statut de chef de file de l'opposition. Mais ce projet de loi doit désormais être voté par le CNT, organe législatif de la transition. La Cour constitutionnelle pourrait également être saisie, selon les politologues et juristes maliens consultés par RFI, puisque la formation et les activités des partis politiques sont garanties par la Constitution. Ce qui ne devrait pas poser de problème, ces deux institutions étant acquises aux militaires au pouvoir.
Alors ceci dit, ce processus ouvre la voie à un combat juridique institutionnel pour les partis politiques maliens qui n'entendent pas se laisser faire.
Oui, d'autant qu'une nouvelle charte devra être élaborée. Nous resterons lucides et légalistes, déclare un cadre de l'IPAC, l'initiative des partis politiques pour la charte, qui rassemble toutes les formations historiques et représentatives du Mali. Une réunion des présidents de ces partis prévue hier doit finalement se tenir cet après-midi pour déterminer la marche à suivre. La classe politique et tous les défenseurs de la démocratie malienne sont vent debout contre la dissolution des partis et contre les autres recommandations qui doivent permettre aux militaires au pouvoir depuis déjà 5 ans d'y rester sans organiser d'élections pour 5 années renouvelables jusqu'à la pacification du pays.
Le 1er mai à Dakar, plusieurs centaines de travailleurs sont rassemblés depuis la fin de la matinée devant le siège de l'un des principaux syndicats du pays, la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal. Pas de défilé cette année, mais un grand rassemblement. Léa Lisa Westerhoff, vous êtes la correspondante de RFI à Dakar. L'ensemble des centrales syndicales du Sénégal, une douzaine, ont décidé d'unir leurs voix, car un an après l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités, une certaine impatience se fait sentir dans les rangs des travailleurs.
Oui, les promesses sociales ont été nombreuses, mais pour l'heure, les conditions de vie ne sont pas améliorées, avec un coût de la vie qui augmente et des salaires qui ne suivent pas. On nous demande d'être patients, mais un an après, un cinquième des promesses seulement ont été réalisées, m'expliquait tout à l'heure un employé de la marine marchande qui réclame une revalorisation de son salaire. Ce 1er mai a donc lieu dans un contexte social tendu, avec pour principal point de crispation une série de licenciements jugés abusifs par les syndicats, car pour la première fois, ces licenciements ont également eu lieu dans la fonction publique, du jamais vu selon les syndicats, qui demandent la réintégration de quelques 400 fonctionnaires en CDI et dont les droits ont été violés selon eux.
Autre revendication majeure, de meilleures conditions de travail pour les agents publics de la santé.
Oui, et aussi la revalorisation des retraites des agents contractuels de l'éducation nationale. Tout cela figure dans un cahier de doléances qui sera remis cet après-midi par les 12 centrales syndicales du pays au président Bassirou Diomaye Faye. Un pacte social entre les autorités et les syndicats pourrait également être signé dans la foulée, proposé par le Premier ministre Ousmane Sonko et négocié depuis fin février. Cet accord doit garantir une trêve de 3 ans dans les manifestations, précieuse pour les autorités évidemment, en échange un certain nombre de garanties pour les travailleurs. La fin des licenciements dans la fonction publique devrait notamment en faire partie, Nicolas.
Léa Lisa Westerhoff en direct de Dakar. Et en ce 1er mai, nous recevons dans la deuxième partie d'Afrique Midi Anselme Kohovi Amoussou, secrétaire général adjointe de la Confédération syndicale internationale Région Afrique. Il est midi 40 à Dakar.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, la Somalie interdit l'entrée de son territoire aux ressortissants de Taïwan. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa crée une commission d'enquête sur l'impunité dont ont joui les auteurs des crimes les plus graves durant l'apartheid. Et puis, les sports du cyclisme, la quatrième étape du Tour du Bénin a emmené ce matin le peloton à Atiémé. La guerre au Soudan a provoqué la plus importante crise alimentaire au monde. Selon les Nations Unies, près de 25 millions de Soudanais, la moitié de la population, souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. À Khartoum, la capitale dont l'armée a annoncé fin mars avoir repris le contrôle, les déplacés commencent à rentrer, mais ils ont bien du mal à trouver de quoi se nourrir. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Gaël Lalex.
Devant la mosquée du quartier de Bouri, Haïtien Mohamed Alawad distribue de grandes gamelles de haricots rouges. Il gère cette soupe populaire depuis le début de la guerre.
On a cuisiné beaucoup de légumes, dont des haricots et de la salade. On fournit le petit déjeuner, le déjeuner et du riz pour le dîner. Environ 190 personnes viennent chaque jour. On note les repas sur une carte.
Bouri est dévasté par les combats et les pillages. Pour ses habitants, comme Habib Mohamed Ali Mustafa, la soupe populaire représente le seul moyen de survivre.
On n'a ni argent ni nourriture chez moi. Je n'ai jamais quitté Khartoum. Durant toute la guerre, je suis venu chercher ma nourriture ici.
Est-ce que vous auriez pu survivre sans la soupe populaire ?
Non. Tous les habitants du quartier, on venait se nourrir ici, deux repas chaque jour.
Ce sont les Soudanais de la diaspora qui financent les soupes populaires de la capitale. Mahmoud Salah, ingénieur, vient chaque jour. Il n'a pas les moyens de suivre l'inflation.
La nourriture coûte très cher car on est dans une période d'après-guerre. Un kilo de viande coûte 24 000 livres soudanaises.
Et avant la guerre ?
2 000 seulement. Aujourd'hui, 6 pains coûtent 1 000 livres soudanaises. Avant, on en achetait 24 pour le même prix. La différence est énorme.
D'après le Programme alimentaire mondial, le prix du panier moyen au Soudan a augmenté de 134% en un an. Gaël Lalex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
La Somalie interdit aux ressortissants taïwanais l'entrée sur son territoire. Taïwan proteste et dénonce une restriction de la liberté d'aller et venir, prise à l'instigation de la Chine, Vincent Sourio.
Pour justifier son choix, la Somalie cite la résolution 2758, un texte voté à l'ONU dans les années 70, qui, selon Mogadiscio, consacre le principe de la Chine unique. Autrement dit, les autorités somaliennes s'alignent sur la rhétorique de Pékin, selon laquelle Taïwan devrait revenir dans le giron chinois. Ce que la Somalie n'apprécie pas du tout, ce sont les liens entre les Taïwanais et le Somaliland, un territoire qui a autoproclamé son indépendance de la nation somalienne en 1991, qui n'a jamais été reconnu par le gouvernement somalien ni par la communauté internationale, mais qui a forgé des relations diplomatiques avec Taïwan en 2020. La présidence taïwanaise a même entraîné les militaires du Somaliland, offert des bourses à ses étudiants, fourni de l'aide médicale et financé la construction d'infrastructures locales. Proximité devenue trop gênante pour la Somalie qui veut à tout prix récupérer le Somaliland et qui voit désormais dans cette amitié avec Taïwan une entrave à son intégrité territoriale.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa annonce la mise en place d'une commission pour enquêter sur le défaut de justice qui entourait les crimes de l'apartheid. Suite aux travaux de la commission Vérité et Réconciliation, de nombreux suspects qui n'avaient pas obtenu d'amnistie auraient dû être poursuivis devant les tribunaux. Mais au final, très peu ont été inquiétés. Et les victimes ne l'ont jamais accepté, Claire Bargelès.
En 1998, la commission Vérité et Réconciliation remettait ses conclusions au gouvernement sud-africain et recommandait des poursuites pour près de 300 cas. Mais 27 ans plus tard, seule une poignée de dossiers ont conduit à des procès. Beaucoup de suspects ne sont désormais plus en vie et des familles de victimes sont toujours en quête de paix et de vérité. C'est pourquoi plusieurs de ces familles ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux en début d'année afin de réclamer des explications et des dommages et intérêts. Cyril Ramaphosa les a donc entendus et au travers de cette future commission d'enquête, il souhaite que la lumière soit faite sur les soupçons d'interférence politique. Plusieurs voix, et notamment celle d'un ancien cadre du parquet, ont dénoncé par le passé des blocages volontaires sous la présidence de Thabo Mbeki afin que des dossiers soient enterrés. Le gouvernement doit désormais annoncer dans quel délai cette commission sera mise en place et qui sera nommé à sa tête. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Les sports du cyclisme et la quatrième étape du Tour du Bénin ce matin. Direction Plaine Ouest, Olivier Pron, 111 km de Boïcon vers Atiamé et un sprint massif à l'arrivée remporté par un Néerlandais.
Exactement, vous savez tout Nicolas, bonjour, bonjour à tous. Atiamé, où il a frontière avec le Togo, on était à quelques centaines de mètres effectivement de ce pays voisin du Bénin pour cette arrivée. 37 degrés, 44 km heure quand même, c'est l'allure du peloton, c'est vous dire si on ne chauffe pas, on ne chaume pas par cette chaleur à travers les forêts de teck, de palmiers. On est dans la région des agrumes, mais il y a aussi de très belles forêts, forêts très vertes en ce moment. Plusieurs attaques, une étape assez vallonné, propice aux tentatives pour les âmes baroudeuses. Il y en a eu plusieurs. On a bien cru, eh bien, que la dernière allait payer. Elle concernait 5 coureurs, un Camerounais, un Burkinabé, un Français, Victor Lebon, qui s'était imposé dans cette même étape l'an passé. Et puis, 2 Sud-Africains. Il comptait à 10 km de l'arrivée, même moins que ça, à 8 km, encore plus de 40 secondes d'avance. Oui, mais le problème, c'est que dans le peloton, il y avait d'autres Sud-Africains, le maillot jaune, les Marocains et surtout les Néerlandais. Ils ont roulé autant qu'ils pouvaient pour rattraper donc ces échappés et finalement, eh bien, provoquer ce sprint massif à l'arrivée. Cet homme, Wages, je vous le prononce comme je peux parce que ça n'est pas si simple, comme Wages, le Néerlandais qui s'impose devant le maillot jaune Reinhard Janse van Rensburg, troisième, eh bien le Marocain Ibrahim Essebaï. Au général, ben pas de changement, Van Rensburg est toujours maillot jaune pour quelques secondes, 6 à 8 secondes devant Ibrahim Essebaï. Le changement, c'est la troisième place qui est prise donc par Tom Wages. À noter sur cette étape les quatrième et sixième places de deux Maliens, Daouda Djiré et Tiemoko Diamouten. C'est une sacrée performance.
Olivier Pron, envoyé spécial de RFI sur le Tour du Bénin. À demain. Il est 13h46 à Atiémé, Anne Cantner, les grands titres de ce jeudi 1er mai.
La tension en Syrie, la plus haute autorité spirituelle druze critique durement les nouvelles autorités, dénonce des massacres après les affrontements entre combattants druzes et des groupes armés proches du pouvoir. Ces violences ont fait 73 morts en deux jours. En assurant lancer un avertissement et protéger les druzes, Israël avait bombardé hier les environs de Damas. Le pays a aussi mené de nouvelles frappes dans le sud du Liban, aujourd'hui tuant deux personnes, selon le gouvernement libanais. Après des mois de discussions parfois très tendues, les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord pour l'exploitation des minerais du gaz et du pétrole ukrainien. Exploitation gérée par un fonds d'investissement commun et les investissements américains pourront prendre la forme de livraison d'armes. L'Ukraine, en revanche, n'a pas obtenu les garanties de sécurité qu'elle espérait de la part des États-Unis. Et puis des marches, des rassemblements partout dans le monde en ce 1er mai. En Colombie, le président appelle à défiler pour soutenir ses réformes. En France, les syndicats remettent la question des retraites sur la table et dans le Nord, des figures de la gauche se sont retrouvées à Dunkerque pour soutenir les salariés d'ArcelorMittal. Le groupe vient d'annoncer 600 suppressions d'emplois. Et en ce jour de fête du travail, nous recevons Anselme Kohovi Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin et secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale internationale pour la région Afrique.
Bonjour Anselme Kohovi Amoussou.
Bonjour.
Comment se portent les droits des travailleurs d'Afrique en ce 1er mai 2025?
Je dois objectivement avouer que les droits des travailleurs en Afrique en 2025 sont en difficulté. C'est un mouvement général, c'est vrai, dans le monde entier, où, disons, attaquer le syndicat est devenu un peu la mode pour beaucoup de gouvernants. Mais encore plus en Afrique, parce que justement la situation, le contexte africain est un contexte qui est fait d'un syndicalisme, disons, un peu faible de par le taux de syndicalisation, un peu faible par un certain nombre d'insuffisances internes. Et donc tout cela mis ensemble fait que la situation du syndicalisme dans le monde étant ce qu'il est, En Afrique, c'est encore plus difficile parce que ce sont des violations de droits, ce sont des refus de reconnaître les droits du travail. C'est également un certain nombre de brimades vis-à-vis des responsables syndicaux. Et donc, globalement, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire quand on parle des droits du travail en Afrique.
Quels sont les pays du continent où la situation est la plus préoccupante?
Je dirais d'abord les pays francophones en général où vous avez un taux de syndicalisation qui est, disons, autour de 3% dans le meilleur des cas, mais également les pays francophones où vous avez une atomisation du paysage syndical qui fait que le pouvoir social est un pouvoir complètement érodé, affaibli, et donc où les travailleurs sont défendus par des organisations qui sont vraiment en difficulté vis-à-vis de l'employeur. Mais depuis quelque temps, on remarque également que les pays qui étaient pour nous des pays de référence, notamment quand je prends la Tunisie avec la grande confédération UGTT, et qui apparaissait il y a quelques années comme un syndicalisme fort qui peut faire face à tout ce qui arrive comme mal gouvernance, aujourd'hui est en difficulté avec la gouvernance actuelle en Tunisie, ce qui fait que vous avez ces pays qui étaient des références qui semblent entrer dans le rang parce qu'ils vivent aujourd'hui les mêmes réalités que nous. Et puis vous avez les pays en guerre ou les pays qui connaissent des situations d'insécurité, notamment prenez le Burkina Faso, vous prenez le Mali, vous prenez le Niger, où un certain nombre de décisions sont prises au nom de la géopolitique, au nom des consignes sécuritaires, qui sont des décisions dirigées contre les syndicats, contre les travailleurs, qui n'ont plus vraiment, disons, tout le confort qu'il faut pour poser des revendications d'ordre corporatiste parce que on leur oppose à chaque fois la situation du pays et qui demandent de leur part de se taire un tout petit peu sur leurs revendications. Donc, la situation est un peu améliorée dans les pays anglophones où vous avez un syndicalisme qui est moins atomisé, qui est moins divisé. Vous avez des confédérations qui sont fortes et qui, disons, en face du pouvoir politique peuvent déployer un pouvoir social conséquent, ce qui fait que les rapports de force sont des rapports de force qui sont moins déséquilibrés aux dépens des travailleurs. Et donc, la situation est plus confortable entre griffes que ce qu'on peut déplorer dans les autres pays que j'ai cités en premier.
Le Mali, le Niger et le Burkina que vous avez cités sont aussi des pays où les pouvoirs civils ont été remplacés par des régimes militaires. Sont-ils plus exposés que les autres aux atteintes des droits des travailleurs?
Mais bien sûr, ils sont plus exposés parce que ils sont plus exposés du fait justement de la situation politique aujourd'hui. Parce que en réalité, et lorsque vous posez des revendications d'ordre syndical, on a tout fait de vous coller une étiquette d'apatride parce que vous ne contribuez pas justement à l'effort qui est demandé à chaque citoyen. Et donc la veille citoyenne est mise à mal par, disons, le système politique qui est en place, puisque nous sommes dans des régimes d'exception. Et dans des régimes d'exception, vous savez très bien que assez souvent, c'est la porte ouverte à beaucoup d'abus. Donc, la voie des syndicats est une voie qui est un peu entravée par, disons, la crainte de ne pas apparaître comme l'ennemi du pays, l'ennemi du citoyen de ces pays, parce qu'on ferait le jeu donc de ceux qui ne veulent pas que le pouvoir politique rayonne. Et donc, ces pays que nous citons sont des pays où, justement, nos camarades ont un peu plus de difficultés que dans les pays que j'appellerais normaux, entre griffes, parce que...
Les pays sont dotés de pouvoirs civils.
Exactement.
Le secteur informel représente une très grande part de l'emploi sur le continent africain. Je crois presque 90% de l'emploi en Afrique subsaharienne. Ces travailleurs de l'informel sont-ils toujours les sans-droits du continent?
Oui, pour largement aujourd'hui, pour la plupart, malheureusement, malgré des efforts qui sont faits, parce que des efforts sont faits justement par les syndicats pour essayer d'organiser ce secteur, les travailleurs de ce secteur, de les syndicaliser pour leur permettre de mieux se défendre. Mais malheureusement, vous savez, qui dit secteur informel dit précarité de l'emploi, dit vie au quotidien. Et donc, c'est très difficile pour des travailleurs de cette catégorie de laisser leur étal, de laisser leur commerce pour venir parler des syndicats. Et surtout que le syndicat n'est pas vraiment attractif au regard des difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc oui, largement, aujourd'hui, le secteur informel est un secteur qui n'est pas encore vraiment entrepris par les syndicats et où on a le sentiment que les travailleurs sont un peu abandonnés. Et plus grave, c'est que vous avez parfois, certaines études l'ont montré, vous avez le sentiment auprès de ces travailleurs, vous avez le sentiment qu'ils n'attendent même plus rien, ni des gouvernants, ni des syndicats. Et c'est un drame, hein. C'est un drame quand on est travailleur et que on n'a pas vraiment le sentiment qu'on peut avoir des recours.
Une question pour finir sur la situation dans votre pays, le Bénin. Le nombre de jours de grève est limité à deux par mois. Des secteurs complets sont privés du droit de grève. Les hydrocarbures, l'aéroport, la santé. Est-ce que l'abrogation de ces dispositions adoptées il y a quelques années déjà reste votre combat ?
Oui, ça continue d'être notre combat. Parce que, voyez-vous, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Vous savez, je crois que c'est une erreur de considérer que le syndicat est une perte de temps. Or, c'est cela que l'on nous montre aujourd'hui. On veut nous montrer qu'on n'a pas besoin du syndicat, on n'a pas besoin du dialogue pour avancer. Et c'est une très, très mauvaise solution à un problème réel dans ce secteur-là. On ne peut pas transposer des choses qu'on a vues ailleurs dans des pays qui n'ont pas le même niveau de développement que nous et le ramener ici. Et quand on fait le point avec eux, on se rend compte que ces mesures n'ont pas atteint les objectifs qui étaient fixés au départ, qui étaient annoncés au départ, qui étaient que ça allait permettre de booster l'économie, de faire venir les investisseurs. Aujourd'hui, quand on fait le point, on n'a pas beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont venus au Bénin du fait de la prise de ces lois-là. Donc, il est temps que les gens entendent raison et donc, pour cela, le combat doit continuer pour les syndicats du Bénin.
Merci, Anselme Kovi Amoussou. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications. Rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Et l'on termine en musique avec le sixième album du jazzman sénégalais Aloun Wade, New African Orleans. Le bassiste et compositeur il rend hommage aux racines africaines du jazz dans cet album qui a été enregistré à la fois en Afrique et aux États-Unis. Olivier Roger.
À l'origine était l'Afrique, ses captifs emportant dans leur mémoire le secret des rythmes qui donnent la force de vivre. Puis vint le retour, ce jazz afro-américain qui irrigue la musique d'un Fela Kuti ou d'un Abdoulaye Ibrahim. Aloun Wade a voulu souligner ce va-et-vient d'influence.
Je pense que ce côté organique que nous retrouvons dans la musique africaine est juste le socle de ce qui est devenu aujourd'hui le jazz.
New African Orleans est à la fois un hommage et une quête de correspondance entre deux zones d'influence de la musique mondiale, l'Afrique et l'Amérique. Aloun Wade s'ingénie à dénouer les nœuds de la pelote. Pour cela, 4 des 11 pistes de l'album sont des réinterprétations de standards, dont cette reprise de Voodoo Child de Jimi Hendrix.
Ce sont des morceaux qui portent des messages qui sont très liés à l'Afrique, comme le Voodoo Child. Donc, lorsqu'on parle du voodoo, on pense à l'Afrique de l'Ouest, on pense au Bénin, on pense au Togo. Tout ça, c'est voodoo.
La magie qui entoure cet album tient aussi à la qualité des instrumentistes réunis par Aloun Wade, lui-même l'un des plus grands bassistes de la planète jazz.
African Orleans, sixième album d'Aloun Wade. De cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Périard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus d'une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Vous pouvez aussi écouter une demi-heure d'informations en full day ou en portugais.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Émission Questions de femmes, nous parlons de la prise en charge et de la prévention de l'asthme, une maladie respiratoire chronique qui concerne tous les âges.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
L'intelligence artificielle est une révolution qui impacte l'ensemble de nos activités, énergie, transport, agriculture, production industrielle. Mais est-ce pour le meilleur ou pour le pire? Et surtout, est-ce compatible avec l'urgence écologique? Nous faisons le point avec nos invités.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. 8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème de demain.
Un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, ça c'est sur le papier, mais la réalité des familles recomposées est beaucoup plus complexe.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.